Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
After review.
Yeah, I did. I spoke to Johnny.
Number 9 of all Norway.
I asked for a review because I didn't think it was a foul.
Push deliberately the defender before the ball was in play.
I was not a guy punching somebody in the face.
Final decision.
How would you feel if I took Ronaldo or we took Messi out?
Corner retaken.
Et bonsoir à tous, bienvenue dans l'After, c'est la 33e nuit de l'After qui continue jusqu'à 2h du matin. L'After est sur RMC, l'After est sur la chaîne YouTube, bien sûr de l'After Foot. Vous écoutez la première radio de France le soir dans l'After qui est à nouveau en direct de New York. Et là, alors là, on a un décor de rêve, on est en plein Manhattan. Il est évidemment ici 16h02, donc il fait encore jour, il fait très beau. Et pour des premières fois de l'histoire de l'After en 20 ans, je crois que nous aurons un After avec du soleil sur le plateau, ce qui est assez surprenant. Enfin, c'est comme ça, nous, on n'a pas trop l'habitude. D'habitude, on est à la nuit, très tard, dans le noir. Donc, on est dans le quartier de Times Square, au Café Luce, qui nous reçoit dans la 51e rue. Si vous êtes dans le coin que vous voulez passer, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. L'entrée est libre. Maxime Chano est là, l'Américain.
Toujours là.
Maxime.
Pas parti, je suis resté. Mais bon retour, en tout cas, à New York. On est très heureux de te recevoir encore une fois, Gilbert, qui est parti à Paris quelques jours et qui est revenu. Voilà.
Ouais, voilà, parce que maintenant, on sent la victoire, donc on est revenu.
Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, salut.
Julien Laurence, lui, est resté. Depuis le début. Parce que depuis le début, lui, alors, cela dit, il a plein d'équipes, donc ce gros feinteur, il en a encore deux possibles.
Je peux avoir la finale de rêve, hein. La finale France-Angleterre, c'est la finale parfaite, quasi.
Finale de rêve.
Et puis alors là, on va en reparler tout à l'heure. Et excusez-moi, mais là, aujourd'hui, présence d'une légende.
Ah ouais.
Qui est l'homme qui a fait monter Strasbourg en Ligue 1.
Là, c'est pour ça.
L'homme qui sait tirer les pénaltys. On va en reparler tout à l'heure parce qu'il y a un vrai sujet pénalty ici à la Coupe du Monde. Il a travaillé avec nous il y a quelques années déjà. Il a brillé de mille feux. Maintenant, bon, il est parti chez les Américains. Quoi.
Non, tu vois, je me suis fait virer, pareil. C'est pas pareil.
C'est trop cher.
Franck Leboeuf est là. Salut, Francky.
Salut tout le monde. Très heureux. Ça fait combien de temps que tu fais l'After, tu m'as dit ?
20 ans.
Putain, mais t'es le Michel Drucker de la radio, quoi, en fait.
Bah,
la
écoute,
longévité, pas pour toi.
Ouais, voilà. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a que moi qui me souviens de Strasbourg-Rennes avec Jackie Paillard et Franck Leboeuf.
Ah, non, mais moi, je suis avec toi à fond. Cette frappe extraordinaire de Stéphane Kishi en pleine lucarne.
Oh, la légende de 35 mètres sous la barre et ouais. Bam!
Paf, Pascal Rousseau, pardon. Salut, poteau.
Donc, l'actu. Les gars, bien sûr, les dernières infos de veille de match. On aura Fabrice Hawkins avec nous dans quelques instants. On va tous savoir de ce qui se dit en France, sur la France, sur l'Espagne également, puisque Florent Germain, lui, suit l'équipe d'Espagne et puis on débattra parce que finalement vu les forces en présence en demi-finale, vu la forme de chacun, est-ce que finalement pour la France ne pas gagner la Coupe du Monde ne serait pas un échec? On va en parler tout à l'heure ensemble. On profitera donc de la présence de Franck pour revenir sur les chiffres cata des pénaltys lors de ce mondial. 65% seulement des pénaltys transformés. Et puis après 23h, un petit sujet anglais. Gary Lineker estime que Jude Bellingham peut devenir le meilleur joueur anglais de l'histoire. Est-ce qu'il a raison dans un contexte où Bellingham, on va dire, est légèrement contesté? Julien nous donnera son avis, évidemment, on en débattra. Et puis alors, on a lancé un grand jeu l'autre jour dans l'After. En partant des comparaisons qu'on faisait entre Mbappé, Platini et Zidane, on disait bon, ben voilà, maintenant on en a trois à la table en fait. Enfin, ils sont trois. Et on s'est amusé à commencer à faire les tables des autres pays, et là c'est parti en vrille.
Ah ouais, j'imagine.
Donc là, il faut qu'on continue ce soir. On va faire la table anglaise, on va faire la table espagnole, on nous a réclamé la table algérienne. Je ne sais pas si on va faire la table luxembourgeoise.
Ah bah, je crois que numéro 1, on l'a avec nous.
Numéro 2, mais pour l'Angleterre, si la table est aussi bonne que leur cuisine, vous n'avez pas trouvé grand-chose. Hein.
Ouais, ça, c'est pas faux. Bon, en tout cas, Lineker, lui, est déjà à la table. Je ne sais pas si Bellingham y sera bientôt.
Keegan, Roger Moore, Charlton.
Beckham, oh.
Ouais.
Beckham.
Mais non, pas Beckham.
Roger Moore,
c'est
pas autre
Beckham. Chose. Beckham par rapport aux autres, mais il n'y a pas photo.
Roger Moore, c'est autre chose. Mais
ouais,
il y a la table des acteurs. Mais...
Roger Moore, c'est la table des agences.
Ah, James
Bond.
Le défenseur.
Ouais.
Bobby Moore,
voilà.
Bobby Moore.
Ah là là, quelle susceptibilité. C'est pas près le même prénom.
Non, mais ça chante beaucoup, hein, surtout quand Chanoël. Hein, tu vois.
Ah ouais,
c'est, prépare-toi.
Ah.
On y va crescendo.
Tout ça sans oublier l'actu du jour, évidemment, notamment l'actu Mercato, puisque Lucas Digne se rapproche de plus en plus du PSG. Vous aurez les infos tout à l'heure. 32-16, on vous attend sur le numéro WhatsApp de l'After, 06-12-424-424, bien sûr. Fabrice Hawkins, c'est là. Fabrice, c'est moi qui prenne la parole. Jingle Fabrice Hawkins, nouveau jingle Fabrice Hawkins, parce que Fabrice Hawkins Et à Dallas. Eh oui, monsieur Dan.
Ah bon.
Magnifique.
Pendant 48 heures, vous allez y avoir droit. Fabrice, bonsoir.
Bonsoir, salut à tous. J'aime beaucoup le jingle.
Voilà, c'est ton nouveau jingle, c'est mieux que le faucon. Bon, on veut évidemment la compo pour demain, Fabrice. Est-ce que tu es sûr à 100% de cette compo déjà? Est-ce que tu peux nous la donner?
Bah, c'est une information en soi. Non, je suis pas sûr de la compo. Effectivement, on va suivre ça avec avec beaucoup d'attention, heure après heure, jusqu'à demain, évidemment, sauf si ça tombe de manière certaine avant. Mais on n'est pas sûr à 100% que Aurélien Tchouaméni, qu'on annonce depuis plusieurs jours titulaire, donc de retour après sa blessure à la cuisse, on n'est pas sûr qu'il soit titulaire, même si ça reste une tendance. Mais c'est une petite tendance. Et puis à gauche, il y a toujours ce doute entre Bradley Barcola et Désiré Doué. L'entraînement vient de se terminer. L'entraînement à huis clos, donc on va avoir comme ça au fil des minutes les infos sur ce qui est passé. Les premières tendances, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de mise en place, ce qui confirme la thèse du secret, en tout cas du fait qu'on souhaite garder le plus d'informations possible du côté du staff avant cette rencontre. Et donc voilà, il y a deux principales interrogations. C'est au milieu du terrain qui va accompagner Adrien Rabiot, Manu Koné ou Aurélien Tchouaméni, et qui va jouer à gauche, Désiré Doué ou Bradley Barcola. Le reste de la compo, vous la connaissez.
Bon, les gars, moi, si Tchouaméni ne joue pas demain, est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle quand on voit le rendement de Koné depuis le début de la Coupe du Monde? Qui veut s'exprimer en premier? Max?
Oui, moi, je vais commencer parce que j'avais dit un peu plus tôt, je m'étais fait tomber dessus d'ailleurs quand j'avais dit, quand Tchouaméni était blessé, que c'était pas très très grave si Koné venait. En tout cas, il y avait toujours une catastrophe de la part de l'opinion publique. On perd l'un de nos meilleurs joueurs, on le rappelle, le vice-capitaine. Moi, sincèrement, quand je regarde la paire Rabiot-Koné, quand je la compare avec la paire Rabiot-Tchouaméni, je préfère la paire Rabiot-Koné. Pourquoi? Parce que Koné, il a cette perspective, il a cette possibilité de pouvoir aller vers l'avant. Et en fait, je trouve qu'il libère un petit peu Rabiot. Si je préfère du travail défensif, du travail même offensif, la manière dont il régule le jeu, je trouve que les deux sont un petit peu plus complémentaires. Que quand c'est Tchouaméni qui joue, tu sais comment que ça se passe. Tchouaméni est un peu plus bas, il a tendance à venir dropper entre les défenseurs centraux. Il est beaucoup plus défensif et il laisse Rabiot faire le jeu offensif. Et on sait que Rabiot aujourd'hui, même si c'est un super joueur, même s'il fait une superbe Coupe du Monde, je suis pas convaincu que ça soit le joueur qui soit en mesure, en tout cas, d'aider l'équipe de France à être performante dans ce milieu-là. D'autant qu'il ne faut pas oublier, tu vas jouer contre l'Espagne, un milieu à 3 avec un Dani Olmo qui va venir sûrement embêter un petit peu cette paire de milieux défensifs. Koné, j'ai beaucoup aimé aussi sa manière dont il a joué sur le dernier match, la manière à récupérer les ballons. Il a gagné les duels, il a été dans un dépassement de fonction qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir de la part de ce joueur-là. Donc j'ai beaucoup aimé le joueur, j'ai beaucoup aimé la paire. Moi, sincèrement, et là je vais poser aussi la question à Franck, qui est un ancien joueur, comment, quand tu es Koné, que tu as fait une compétition comme il est en train de faire la Coupe du Monde, tu acceptes le fait de revenir sur le banc, même si c'est Tchouaméni, vice-capitaine? Non, mais aujourd'hui, il y a aussi la culture de l'instant, c'est-à-dire la performance de l'instant. Et Koné, ce qu'il nous a montré, ça a été contre le Maroc le meilleur Français, de loin. Donc quand t'es Koné, tu t'appelles que t'as fait un bon match, que t'as été performant, est-ce que tu acceptes de revenir comme ça sur le banc si facilement? Moi, je trouve ça un peu...
C'est une vraie question. Il y a toujours une hiérarchie qui est mise en place avant la compétition. Et c'est vrai que tu vois souvent, quand quelqu'un se blesse, revenir et l'autre partir sur le banc. Mais si t'as pas un Tchouaméni à 100%, qui est vraiment la solution, alors que tu l'as là, est-ce que tu Tchouaméni la solution pour aller rejouer? Puis alors, moi, d'entendre comment on va faire pour gagner sans Tchouaméni, ça me rappelle des vieux souvenirs, tu vois.
Oui. Tu vois, toi, tu l'as entendu pour toi. Oui.
Ouais, voilà. Mais si un joueur est international français et sélectionné par Didier Deschamps, c'est parce qu'il est... Didier Deschamps pense qu'il est capable de jouer le rôle. Et on voit que Koné est super. Et moi, je suis plutôt de ton avis. Un Koné à 100% et en confiance est préférable pour l'instant à un Tchouaméni en doute qui revient de blessure.
C'est ça, parce que après, tu sais pas à quel niveau il va revenir.
Exactement. Et après, moi, je parlais de Barcola. Barcola, c'est super intéressant. Quand on sait qu'on joue, que l'Espagne joue, avec la vitesse qu'il a et l'espace qu'il y aura derrière la défense, j'adore Désiré Doué. Pour moi, c'est celui qui est le plus. Qui a des dons extraordinaires. Mais dans ce match-là contre l'Espagne, je me demande si Barcola n'est pas plus intéressant parce qu'il peut aller surprendre derrière la défense avec sa vitesse de pointe et tout ça. Après, c'est Didier qui décidera. Je trouve qu'on a vraiment des problèmes confortables.
Moi, je trouve la paire Rabiot, c'est mieux que Tchouaméni Rabiot.
Alors, moi, je préfère la paire Rabiot-Koné. Je suis d'accord avec Max. En revanche, le plus défensif des trois, c'est lequel?
Tchouaméni, bien sûr.
Bien sûr.
Dans un match où. une des clés sera le milieu de terrain, ouais, où eux risquent d'avoir beaucoup le ballon, Rodri, Pedri, Olmo, ouais, où il va falloir garder un œil vraiment très discipliné sur Olmo, son positionnement, c'est un des joueurs les plus intelligents dans ce rôle de numéro 10 là.
Je suis d'accord avec toi.
Est-ce que c'est pas mieux d'avoir Tchouaméni et d'avoir un peu plus de cette sécurité là qu'un Koné qui a quand même plus tendance à se projeter vers l'avant, parce que c'est là où il est très fort.
Je suis d'accord avec toi. Après, il faut aussi se poser la question à quel match l'équipe de France doit s'attendre. Ça va être un match de possession pour l'Espagne. On sait très bien que l'équipe de France, en tout cas moi c'est comme ça que je vois. Je
ça
sais
les
pas
arrange si... la France.
Exactement. Même. En tout cas moi je vois un match comme ça. Je vois un match de handball. Quand j'entends ça va être un match ouvert, pour moi j'y crois pas un instant. On a vu comment ça s'est passé d'ailleurs sur les quarts de finale.
On va retrouver le vrai Deschamps là, qui va attendre un peu plus.
C'est même pas ça, c'est qu'aujourd'hui tu sais pour contrer l'Espagne, tu sais la solution. La solution c'est de les prendre en transition offensive. En plus de ça, t'as ce quatuor devant qui va à 2000 à l'heure, t'as une défense espagnole qui est très forte mais qui n'est pas la plus rapide. Donc en fait, je m'attends à ce genre de match et je suis d'accord avec toi, Tchouaméni peut être en mesure de pouvoir contrôler Dani Olmo, mais la réalité c'est que si la France est en bloc médian, peu importe que t'es Koné ou Rabiot, tu sais très bien qu'ils vont attendre le ballon et Koné il a cet avantage de pouvoir très vite jouer vers l'avant.
C'est
Est-ce que t'as vu sa première touche de balle,
c'est
toujours vers l'avant et en fait avec ce quatuor offensif, je trouve que Koné a cette possibilité de pouvoir faire le relais entre la défense et l'attaque. Non,
j'essaie de mettre dans la tête de Deschamps. Donc dans la tête de Deschamps, il se dit bon, déjà, je me fais violence, je mets quatre attaquants.
Ouais.
Ça, ensuite, bien. Là, je vais devoir me refaire violence en me privant de mon mec le plus défensif.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Et faudrait pas qu'il nous fasse le délire de sortir N'Golo Kanté demain quand même. Bon, j'y crois pas, mais
Je pense qu'il y a l'expérience qui entre en jeu aussi.
Ouais, mais l'expérience, c'est-à-dire du haut niveau.
Merci Fabrice, tu me rassures.
De ces grands matchs, Koné, ça reste un joueur qui joue à la Roma très bien.
Alors, d'accord. Il joue à la Roma, il joue pas à Strasbourg, excusez-moi.
D'accord.
Pardon.
Ouais, excuse-moi Franck.
On le joue à Ménis,
il va pas bien lui. Tu m'attaques par derrière ou quoi?
Le joue à Ménis, c'est finale de Ligue des Champions, c'est demi-finale d'Euro, c'est des matchs que Koné n'a jamais joué encore. Après, je te dis,
t'as pas tort. Après, c'est la culture de l'instant. C'est, tu récupères un Tchouaméni à combien de pourcents? Il l'a dit, oui, France. Aujourd'hui,
c'est ça le problème. T'es un joueur défensif, ok, le meilleur joueur défensif du milieu de terrain. Mais s'il est pas à 100% contre un Olmo, qui pour moi est un des meilleurs joueurs espagnols, il l'a prouvé encore le dernier match où il fait des trucs. Je trouve que c'est un génie, lui aussi. Il sent le jeu, tactiquement, techniquement, il sait tout faire. Si t'as pas un mec à 100%, si t'as pas un Tchouaméni à 100%, et c'est un Barcelone-Madrid. Hein,
de toute façon, il le fera pas jouer s'il est pas à 100%, ça c'est sûr.
Donc, même si 80%. Donc t'as ta réponse, t'as 4 mecs devant et t'auras pas le meilleur milieu défensif. Je pense pas qu'il mettra N'Golo Kanté. Maintenant c'est de savoir comment nos deux sur le côté, Digne et Koundé, vont jouer. Mais je pense qu'on va avoir une ancienne tactique à la Deschamps, c'est-à-dire on va attendre,
bien
et
sûr,
on va les prendre en compte, parce que c'est la meilleure tactique à avoir, je pense.
Et là c'est intéressant parce que Franck a soulevé le problème, en tout cas la question Barcola Doué. Moi je pense que le problème, en tout cas la question que tu peux te poser entre Tchouaméni et Koné est finalement liée à la question que tu peux te poser entre Doué et Barcola. Je m'explique, je trouve que Doué il a cette possibilité, cette capacité de pouvoir s'intégrer dans le milieu de terrain lorsqu'il va falloir défendre. Ouais. Donc en fait, si t'enlèves Tchouaméni et qu'en plus de ça tu mets Barcola, là je pense qu'en effet Deschamps peut avoir des problèmes.
Donc, c'est lié,
je sais pas, parce que j'avais posé la question à Fabrice la dernière fois, est-ce que c'était lié, si le fait qu'ils mettent Digne et Barcola ensemble, parce que tu te rappelles, ils savent fonctionner un petit peu en duo, en doublette. Finalement, il nous a montré que c'était pas forcément le cas. Donc je pense pas que ça va être lié, mais en fait, si tu regardes d'un point de vue tactique, le fait peut-être de mettre un Barcola et un Koné ensemble, ça risque d'être un petit peu compliqué.
Fabrice, là-dessus, ton point de vue?
Non, mon point de vue déjà, c'est que Didier Deschamps, il a une chance, c'est que Koundé et Aurélien Tchouaméni s'entendent très très bien. D'ailleurs, ils partagent le même agent et il n'y aura pas de difficulté si c'est l'un ou l'autre. Même
tu veux dire Koné,
ce sera peut-être
Koné,
un petit peu Koné, difficile. Koné, ouais. Oui, Koné. Même
t'as
si
dit,
je pense
que c'est Koundé.
Non, Koné, pardon. Même si je pense que ce sera un petit peu plus difficile pour Aurélien Tchouaméni d'accepter si jamais Manu Koné est titulaire. Oui. Et de la même manière, Bradley Barcola et Désiré Doué s'entendent bien et c'est une situation qu'ils connaissent bien au Paris Saint-Germain. Je pense que la clé réside dans ce qu'a dit Franck. À partir du moment où Didier Deschamps n'est pas sûr à 100% qu'Aurélien Tchouaméni est justement en pleine possession de ses moyens, je pense qu'il y a un monde où Manu Koné démarre demain.